le grec au premier chef, le vocabulaire maritime des premiers grecs. Il faut commencer dans cette affaire par parler en fait des noms de la mer en grec ancien. Et je dis bien les noms de la mer en grec ancien, parce qu'il n'a pas qu'un seul nom. Et ça, c'est véritablement une chose très bizarre et pas du tout normale. Donc, d'abord, les quatre noms de la mer en grec ancien. Et il faut là-dedans faire la part de ce que j'appelle l'héritage, c'est-à-dire des mots qui peuvent venir de l'indo-européen, et la part de la création lexicale. Et là, j'ai employé un gros mot en employant le mot néologie. Donc, en fait, il y a quatre noms de la mer. Si vous ouvrez un dictionnaire de thèmes, ce qui n'est évidemment pas ce que vous faites le plus couramment, mais nos étudiants le font, et je l'ai fait aussi autrefois. Donc, on trouve quatre mots. Thalassa ou thalatta, c'est une variante dialectale. Hals, alos, pontos et pelagos. Pelagos est moins employé, mais malgré tout, il y a bien quatre noms qui, naturellement, dans la pratique, ont un emploi légèrement différent. Mais c'est tout de même assez curieux, comme affaire, d'avoir quatre noms de la mer pour un élément qui, normalement, n'en a qu'un. Je pars de ce constat, c'est que c'est une situation en parfaite contravention avec le système de la langue. Si vous ouvrez un dictionnaire de langue, ou si vous regardez ce qui se passe en français, vous voyez qu'il n'y a qu'un seul mot. On peut dire le large, le grand large, etc. Mais le mot « mer » proprement dit, pour désigner l'élément liquide, la vaste étendue d'eau salée, il n'y a qu'un mot. En anglais, si, en allemand, « mer », en français, « mer », en breton, « mort », et la liste, évidemment, est loin d'être close. Ça marche de la même manière pour le nom du ciel. J'ai pris des noms d'éléments simplement, hein, du paysage. Le nom du ciel, en grec, on a ho ouranos. Donc là, le grec se comporte de manière tout à fait normale. Hege pour la terre et to oros pour la montagne. Simple, normal, la mer se signale en fait en grec par quelque chose de bizarre. Donc j'ai essayé d'y voir un petit peu plus clair. Alors en fait, le grec, qui est une langue indo-européenne, ne connaît pas le nom hérité que nous avons en français. Alors, j'ai fait la revue, un petit peu fastidieuse peut-être, mais je vous la donne pour telle, pour, en gros, enfin pour la majorité des groupes de langues que l'on a repérés, on a un nom de la mer qui repose soit sur mori, c'est le cas le plus général, alors le i peut tomber, peut passer à la trappe, hein, quelquefois, quelquefois on le voit, quelquefois il a un effet sur le R. Et il y a une forme mari qui est propre au latin. Alors, donc, dans les langues celtiques, vous avez vu, il y a une unanimité entre le vieil irlandais, le gallois, le gaulois aussi, et le breton. Alors, j'ai cité la forme are moriki, c'est une forme latine, mais dont la base are mor, qui survit dans le breton ar mor, signifie are près d'eux, hein, et mort la mer. Effectivement, les armoricains vivent au bord de la mer, c'était bien vu. Dans les langues germaniques, l'allemand mer a effectivement ce nom hérité, et le gothique sans H. Le gothique, c'est une langue qui a été parlée au Moyen-Âge, on dira, c'est la langue des vikings, d'une partie des vikings, notamment ceux qui sont venus sur nos côtes et surtout ceux qui se sont installés en passant par le détroit de Gibraltar en Italie et sur les bords de la mer Noire. Vous voyez le grand circuit, le grand tour à cette époque-là, c'était pas Rome et Athènes, c'était on descendait par l'Atlantique, on passait en Méditerranée, on faisait quelques escales, on remontait par la mer Noire et on tirait les bateaux à nouveau vers le nord sur des rouleaux, hein, sur des rouleaux de bois. Donc, en gothique, on a mareille. Dans les langues slaves, ma foi, vous voyez une unanimité. Je n'ai pas tenu compte, évidemment, de la manière dont ces langues s'écrivent, que ce soit la forme de slave la plus ancienne qui a servi de langue d'église, le vieux slave, le russe, l'ukrainien, le serbe, le bulgare, le macédonien ou le slovène. Tout se ramène à une forme qui est moriée. Le biélorusse et le slovaque ont une forme mora. Le tchèque et le polonais, qui ont des affinités spéciales, ont mogé ou quelque chose d'approchant. Je ne parle pas vraiment le tchèque. Dans les langues italiques, en dehors du latin, on a peu de documentation, donc peu de chances d'avoir le nom de la mer. On ne l'a qu'en latin, mare. Et enfin, dans les langues baltiques, le lituanien ancien, donc du côté de Vilnius, on disait quelque chose comme marée. Vous voyez, toutes ces formes sont absolument apparentées. Mais on constate aussi des langues, pourtant bien indo-européennes par ailleurs, qui n'ont pas ce nom-là. Eh bien, il y a plusieurs cas de figure. Alors, dans le cas de l'anglais notamment, on constate une inversion du nom, une inversion des noms. Ça se produit souvent dans ce qu'on appelle les microsystèmes. En allemand, on a « Meer » pour la mer et « See » pour le lac. Et c'est ce mot qui est utilisé avec le sens de « lac » en allemand, qui est utilisé en anglais pour désigner la mer. Il y a une espèce de, si vous voulez, de perméabilité, ou de, il y a des couples comme ça, de mots de sens proche, qui peuvent voir leur sens s'échanger. Simplement, en cherchant dans les dictionnaires étymologiques, on s'aperçoit que le mot « mori », Marie a laissé des traces en anglais, mais seulement en vieil anglais. On trouve une forme mère avec le sens de lac, dont vous voyez si, mère, mère, lac. Et naturellement, vous connaissez tous la petite sirène, The Little Mermaid. Dans Mermaid, vous avez le mot, le nom de la mer, hein, et maid, c'est la jeune fille. Une sirène, c'est bien une jeune fille qui vit dans la mer. Ça correspond à la mythologie. On peut aussi constater, sans qu'il y ait d'échange alors véritable, parce que aussi on n'a peut-être pas toute la documentation, mais pour d'autres raisons probablement. Donc, on a deux langues indo-européennes que vous ne connaissez sans doute pas vraiment, qui ne sont pas de premier rang dans le grand public, mais qui sont très intéressantes pour les comparatistes. Donc, dans le cas du Hittite, qui a été parlé en Anatolie à l'âge du bronze et qui a été écrit avec des signes cunéiformes, et donc qui a été déchiffré. C'est une langue qu'on a découverte au début du XXe siècle, et en 1917, très vite, Bedřich Hrozný fait une grammaire et on a découvert un certain nombre de choses très intéressantes. Alors, il y a une forme qui vient forcément du nom de la mer avec une réduplication, une répétition du radical, mar, mara, c'est le nom, non pas de la mer, parce qu'il n'y a pas franchement de mer en Anatolie centrale, c'est le nom du marais. Il y a aussi une langue du groupe indo-iranien, c'est-à-dire en gros langues qui sont maintenant parlées en Perse et dans l'Inde, une langue isolée, l'ossète, qui a une forme mâle. Alors, quand vous roulez le R, il n'y a pas de grosse différence entre mar et mal. Bon, donc là, on a une forme mal qui désigne l'eau stagnante, et l'étymologie de mal, de l'ossète, c'est évidemment Maury, Marie. Voilà, donc ça, c'était le cas du changement de sens. Eh bien, s'il n'y a pas de mer dans le secteur, on a un mot, on l'utilise pour éventuellement désigner le marais. Alors, il existe un dernier cas de figure, rien du tout. Le nom, le mot hérité, Mori ou Marie, n'existe pas. C'est le cas du grec, c'est le cas de l'arménien aussi, qui est une langue indo-européenne et qui constitue un rameau à soi tout seul. Et puis, dans les langues indo-iraniennes, en sanskrit, que ce soit le sanskrit védique ou le sanskrit classique, on a bien sûr des mots pour désigner la mer comme en grec, mais ils n'utilisent pas la base héritée, le mot hérité. Et en avestique, l'avestique, c'est la langue des textes religieux de la religion dont le dieu, le personnage principal est Zarathoustra, qui doit dire quelque chose à peu près à tout le monde. Alors, avestique et vieux perse, vous n'avez pas ce mot. C'est donc effectivement quelque chose de particulièrement gênant. Qu'est-ce qu'on fait? Comment va-t-on nommer la mer quand on n'a plus de nom pour la nommer? Alors, il y a différentes solutions. Et là, vous m'excuserez de m'attarder un tout petit peu sur l'aspect, je dirais, théorico-pratique de la question. Qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas de mot pour désigner une réalité? Ben, on en prend un, on en vole un au voisin, ou on en fabrique un, d'une manière ou d'une autre. Alors, d'abord, on adopte des mots étrangers. C'est ce qu'on appelle faire un emprunt. Et là, sans intérêt, rien du tout. On prend un mot, on l'acclimate, et puis c'est tout. Alors, j'ai pris quelques exemples dans la langue française. Chocolat, vous le savez, nous vient d'Amérique, mais par l'intermédiaire de l'espagnol, et ça vient en fait de la langue nahuatl, et ça, ça avait la forme chocolat, enfin je ne sais pas exactement si on prononce comme ça. De même, tout le monde sait ce que c'est qu'un anorak, et bien c'est un mot qui vient de l'inuit, la langue de ce qu'on appelle de manière politiquement incorrecte les Esquimaux, et c'est une forme anurak, alors avec un a long, et puis un que. Que se passe-t-il quand on fait ce genre d'emprunt? Eh bien, vous le voyez en comparant la forme de départ qui est à droite, j'aurais dû les mettre dans l'autre sens, hein, la forme de départ, la forme source à droite et la forme de la langue cible à gauche. En fait, on prend en gros le mot, mais on élimine tout ce qu'on ne peut pas prononcer, le tle du nahuatl. Ce n'est pas un groupe qui existe en français, donc à la trappe. Hein? De même, cette consonne que j'ai été incapable de prononcer, le que, la l'uvulaire, hein, ce qu'on transcrit par un Q, eh bien, va être transposée par le son le plus proche dans la langue d'arrivée, la langue cible, et ce sera K. Voilà, tout simplement, on adapte, mais tout en ayant pris le mot. Alors, vous notez que les emprunts peuvent devenir des mots à part entière de la langue. Avec anorak, il n'y a pas eu beaucoup, à part l'objet tel, il n'y a pas eu beaucoup d'utilisation ultérieure de dérivés et de fabrication de dérivés. Mais avec chocolat, le mot chocolat a été intégré à la langue française et c'est devenu une base qui est susceptible de permettre de créer un nom de métier, un chocolatier, hein, éventuellement un adjectif, chocolaté. Hein. Vous voyez que là, il n'y a pas de problème du tout. Le mot, on oublie très vite que ce mot a été emprunté à une autre langue. Il est complètement acclimaté une fois qu'il est prononcé de manière facile dans la langue d'arrivée. Alors, autre possibilité, on peut, si on ne souhaite pas utiliser des mots d'une langue étrangère, prendre une et ça se trouve dans les mots qui sont constitués de plusieurs éléments. On peut décider de traduire, mais en décalquant littéralement, un mot d'origine étrangère ou une expression d'origine étrangère. Alors j'ai pris l'exemple classique, que mes collègues linguistes m'excusent, hein, pour désigner les catégories socio-professionnelles, comme on dit maintenant, les Anglais, les Anglo-Américains avaient l'expression « blue collars », col bleu, pour désigner les ouvriers, par opposition aux « white collars », excusez-moi pour ma prononciation de l'anglais, pour les gens qui travaillaient dans les bureaux. On a en fait ici une traduction mot à mot des expressions anglaises. De même, le mot gratte-ciel que vous croiriez parfaitement français, eh bien non. C'est la traduction mot à mot du mot anglo-américain sky, scraper. Scraper signifie qui gratte, gratteur. Hein, et sky, c'est le ciel, tout le monde le sait. Donc, nous avons fabriqué un composé qui est le décalque. Un composé français qui est le décalque du mot américain. Alors, là, vous voyez, on n'a pas du tout d'imagination en linguistique. On a dit c'est un calque, point, et c'est parfait. Bon, mais il y a aussi parfois des langues dans lesquelles les locuteurs ou des institutions censées représenter les locuteurs veillent à la pureté de la langue. C'est le cas notamment du français. C'est aussi le cas de l'islandais, c'est pour cela que je vous ai donné quelques exemples en islandais contemporain. Pour désigner des réalités nouvelles, eh bien, la consigne est, notamment quand on se renseigne auprès de l'Académie française, elle est qu'il faut, d'abord, on est autorisé à créer un mot nouveau uniquement si le mot manque dans la langue, c'est-à-dire qu'un anglicisme auquel correspondrait un vrai bon mot français avec des racines bien anciennes dans la langue, non, défendu par l'Académie française. En revanche, quand il manque réellement un mot dans la langue, on a le droit de créer un mot, dixit l'Académie française. Et je vous ai donné cet exemple amusant parce qu'il a été créé par une doctorante d'histoire médiévale de l'Université de Caen. C'est le mot textilotechnie. Cette jeune fille fait une thèse sur les outils de tissage dans le monde médiéval. Elle en avait assez de devoir dire, de devoir utiliser une grande périphrase, et elle avait remarqué que nulle part parmi ses collègues étrangers, il n'y avait non plus de mots qui pouvaient dire de manière synthétique de quoi elle s'occupait. Et donc, elle a imaginé ce mot, textilotechnie, technique qui renvoie à ensemble des techniques ou des outils techniques, textilo qui concerne les textiles et le tissage. Et elle n'a fait ni une ni deux, elle a écrit à l'Académie française en disant « Voilà, j'ai besoin de ce mot-là, il n'y a aucun mot dans notre langue, qu'en pensez-vous » Et l'Académie française lui a donné son feu vert. Alors maintenant, elle travaille à faire vivre ce mot, à le faire adopter. C'est un peu pour ça aussi que je voulais donner, pour vous montrer comment finalement on peut fabriquer dans sa langue un vrai bon mot. Alors évidemment, le premier élément est d'origine française, le second est d'origine grecque, mais c'est un mot qui existe dans la langue de manière ancienne. Donc, il a ses quartiers de noblesse, si j'ose dire. Alors, en islandais contemporain, on a quelque chose qui est beaucoup plus large, c'est que il y a eu une volonté de ne pas se laisser envahir par les anglicismes. Ça gagne malgré tout un petit peu maintenant. Mais je vous ai trouvé un certain nombre d'exemples qui pouvaient être intéressants. Du plus simple, Is Kapoor, alors je ne garantis absolument pas la prononciation, réfrigérateur, le premier élément c'est la glace, le deuxième l'armoire, une armoire qui sert à fabriquer de la glace ou qui contient de la glace. Le magnétophone, maintenant, eh bien, c'est un mot très long et très compliqué, mais je vous l'ai découpé en unités. Donc, il faut partir de la fin, comme dans toutes les langues germaniques. Et c'est d'ailleurs ça, une procédure de fabrication des mots qui vient aussi de l'indo-européen. Donc, teki ou quelque chose comme ça, ça veut dire qui prend. Upteku, c'est l'enregistrement. Et puis, vous avez un groupe adjectif plus nom. Segul, bands, bande magnétique. Et ça vous fait donc, sous-entendu l'appareil, qui prend l'enregistrement sur des bandes magnétiques. C'est pas absolument simple. Mais magnétophone non plus n'est pas un... Mais c'est très logique et c'est très clair en tout cas. C'est vrai, ça a le mérite de la clarté, même si le mot est long. Alors quelquefois, le néologisme, puisque faire des mots nouveaux, ça s'appelle... créer des néologismes. Le néologisme peut être très court, comme dans le cas de téléphone, simin. C'est en fait le vieux mot pour désigner un câble en vieil islandais. Et là, le téléphone est désigné de manière métonymique par le fil qui le relie, puisque ça a été créé évidemment avant l'époque des portables. Je n'ai pas pu résister à vous indiquer aussi la possibilité, la variante ludique de ces nouvelles créations, des mots valises, qui sont des espèces de monstres de la langue. Parce que quand on y réfléchit bien, quand on lit un mot dans les écritures, enfin, mais que l'écriture soit orientée vers la droite ou vers la gauche, c'est la même chose. Quand on lit un mot, et a fortiori quand on le prononce, on lit les éléments phonétiques qui le composent, les uns à la suite des autres. Et quand on a entendu la séquence complète, on détermine, si on connaît la langue, le sens du mot. Or, dans un mot valise, on va peut-être prendre l'exemple de l'anglo-américain motel, qu'on a emprunté et tout fait en français. Donc, c'est motorway hotel. En fait, on a fait glisser, si j'ose dire, les deux mots l'un sur l'autre, et on a pris le début du premier et la fin du deuxième, mot, hotel. Et évidemment, j'ai souligné l'élément en commun. Un bon mot valise, un joli monstre valise, les Anglais disent portmanteau word, un mot portmanteau, qui était en fait une valise, c'est ces grandes valises du 19e et du début du 20e où on mettait énormément de choses. Et qui était, enfin, c'était plutôt des mâles. Donc, dans ces mots-là, il doit y avoir des sons communs. Alors, c'est très net pour les deux mots qui nous viennent du français du Canada, courriel, courrier électronique. Alors, celui-là, l'Académie française l'a accepté. En revanche, pour spam, courrier indésirable, les Canadiens ont très astucieusement inventé pourriel. Je trouve que c'est un très beau mot, mais l'Académie française n'en vaut pas. Peut-être parce qu'il ne sent pas bon, je ne sais pas. Voilà. Alors, évidemment, là, l'ordinateur, je n'ai pas pu résister à l'ordinateur islandais. Tala, le chiffre pour l'aspect numérique de la machine. Et puis, Völva, la sorcière. Et ça vous donne Tölva, l'ordinateur. L'espèce de chose magique avec des chiffres. Mais même la machine en elle-même, elle est féminisée et elle est maléfique. Enfin, et c'est vrai qu'il y a des jours, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, voilà. Les manières de créer des mots. C'était un long détour dont j'espère vous m'excuserez. Et je reviens maintenant au nom de la mer en grec. Donc, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y en avait quatre. Donc, on va essayer de regarder d'où ils viennent et ce qu'ils veulent dire et comment ils ont pu être créés. En fait, vous avez d'abord « e hals » féminin, la mer, en tant qu'eau salée. Il y a un autre mot « hals », mais de genre masculin, qui est en fait le nom du sel. Vous le voyez ici. Nous avons une désignation de la mer assez particulière. Elle est liée à une perception directe et immédiate. Vous imaginez des gens qui ne connaissent pas la mer et qui arrivent en bordure d'une mer, pensant aller dans un lac, viennent pour y puiser de l'eau, et horreur, l'eau est salée. Donc, c'est vraiment le critère déterminant, le fait que l'eau soit salée, qui a été ici pris en compte et qui est une caractéristique typique, comme on dit en linguistique, hein, vraiment un trait typique de la mer. Alors, ce mot-là, bien sûr, est un mot indo-européen. Je ne vous en ai donné que très peu d'exemples. Le latin a sal, salis, avec une longue que je n'ai pas notée. L'anglais et l'allemand ont une forme sal plus d qui donne salt en anglais, salz en allemand. Donc, aucun doute, les nouveaux arrivants sur les bords de la mer Égée ont été confrontés dans leur expérience à une eau salée, ce qui était inhabituel pour eux, et ils l'ont désignée de cette manière. Donc c'est un néologisme, d'une certaine manière, à l'échelle de l'histoire du grec, qui repose sur une métonymie. Deuxième nom, que je vous avais cité, topélagos, un mot neutre, qui désigne en fait la mer comme pleine liquide. Là encore, alors ce mot va se spécialiser dans le sens de grand large, hein. La mer, quand on l'aperçoit du bord, quand on n'est pas enclavé dans une petite crique, on a une vision de l'étendue devant soi, hein, qui fait penser à une plaine, à ceci près, qu'on ne peut pas marcher dessus. Alors, c'est la racine de ce mot, même si le détail n'est pas facile, on peut prouver que les mots sont en relation, mais c'est un peu compliqué, donc j'ai laissé les détails de côté. Donc, on a le nom de la paume, qui est bien la partie plate de la main. On ne peut voir la paume que si on étend la main. Donc, c'est la paume palamé en grec. Et le mot plaga, qui a donné le français plage, aussi bien plage d'un disque que plage de sable, c'est une étendue, un espace, une zone. Donc, il y a l'idée d'extension horizontale, qui est un sem, qui est un trait de sens commun à tous ces mots. Il me faut maintenant vous parler du troisième mot, hopontos. Alors en fait, vous connaissez tous le mot pons pontis, le pont, qui a donné le mot pont en français. Mais ce mot n'est pas isolé du tout en indo-européen. Il y a en sanskrit panta. En avestique, alors une forme panta avec un... En vieux prussien, qui est une langue apparentée au lituanien, vous avez un mot pintis, et en vieux slave, ça se prononce ponti, en vieux slave. Et tous ces mots-là désignent le nom du chemin. En arménien, dont je vous avais dit que c'était aussi une langue indo-européenne, le radical pont donne hun et ça signifie le gué. Alors, les premiers comparatistes se sont vraiment posé des questions. Comment allait-on pouvoir rendre compte de ces différents sens? Alors, il y a eu une hypothèse extraordinaire qui a été faite, c'est que... Alors, les gens n'étaient pas d'accord. Suivant l'endroit où ils situaient les premiers Indo-Européens, ils disaient, on avait besoin de ponts, donc le sens premier, c'est des ponts. D'autres disaient, non, c'est le chemin. Alors, l'explication dominante, c'était, c'est le mot chemin. Et quand on est arrivé au bord de la mer ou au bord d'un fleuve, il fallait passer le fleuve, donc on a parlé... On pouvait rendre compte du sens de gué en arménien. Et ensuite, hein, les techniques évoluant, on a parlé du pont. Seulement, l'ennui, c'est qu'il existe des verbes en germanique. Vous connaissez l'anglais to find ou l'allemand finden, qui signifie trouver. Mais en fait, celui qui a trouvé une solution unifiante pour rendre compte de cette difficulté étymologique, c'est Émile Bavéniste qui a dit, mais en fait, quand on regarde l'essence du mot chemin en sanskrit et en avestique, ce n'est jamais un chemin réel. On a d'autres mots pour la route de cailloux hein, ou de boue, on a d'autres mots, mais le chemin dans les langues indo-iraniennes, c'est en fait une route à tracer. Ça peut même, panta peut même être employé pour désigner le trajet que les oiseaux font dans le ciel. Il n'y a rien de plus immatériel que le trajet dans le ciel. Hein. Or, c'est ce mot qui est employé et Bavéniste, prenant en considération aussi l'existence des verbes du germanique, a émis l'hypothèse que je crois fondée, mais qui n'est toujours pas acceptée par tout le monde, que, en fait, l'idée de base, c'est celle de traversée dangereuse, de parcours immatériel susceptible de danger, qui peut aussi s'expliquer dans le cadre de la Grèce avec le nom de la mer Pontos, parce que, à l'évidence, traverser une mer pour des gens qui n'en avaient jamais vu, qui ne connaissaient de la charpenterie, du travail de charpentage que le charpentage des chars, mais de manière assez élaborée, puisqu'on a tout un lexique hérité là-dessus, ces gens-là étaient au départ assez démunis et ils ont appris des gens qui étaient sur le terrain, ce que je vous montrerai plus tard. Donc, en fait, l'étymologie de Pontos, qui me semble devoir être retenue, c'est la mer vue comme lieu d'une traversée éminemment dangereuse et risquée. Pensez que le mot risque du français vient de risico en italien et que c'est d'abord la fortune de mer, risico. Il y a le quatrième nom, celui que je pense vous connaissez tous avec thalassa, thalatta. Alors, c'est le mot qui est devenu le plus général, mais curieusement, il est sans étymologie et on parle évidemment, quand un mot n'a pas d'étymologie, on pense qu'il a pu être emprunté. Bon, hellénisé, dans la fin, bien entendu, il a une déclinaison, mais il est possible, sans que ce soit absolument avéré, que ce mot ait été emprunté. Alors, emprunté à qui, bien sûr? On pense tout de suite aux gens qui habitaient en Grèce avant les Grecs, ces gens à qui la mer était familière. Et donc, ayant fait le tour de la question concernant les noms de la mer et vous ayant montré comment, finalement, nommer la mer pour les Grecs, ça n'allait pas de soi. Je vais revenir à mon domaine de prédilection, les mots mycéniens. Et essentiellement, je vous parlerai des mots mycéniens tirés des différents noms de la mer. Alors, j'ai eu un peu scrupule à écrire ce titre parce qu'en fait, il n'y a que deux des quatre noms qui sont illustrés dans les tablettes, mais vous allez voir pourquoi j'ai des excuses. Ce sont les documents qui nous contraignent. Alors, pour vous parler de mycéniens, je dois faire un petit préambule. Il faut d'abord faire, je crois que les historiens vont adorer, une mise au point terminologique, de la terminologie historique d'abord. Le grec, alors à propos de de tout ce qui s'est passé en Grèce au deuxième millénaire avant Jésus-Christ. Les historiens distinguent, ce qui est normal, entre la Crète et les îles de la mer Égée d'un côté et la Grèce continentale, Grèce mycénienne qui va de la Thessalie jusqu'au sud du Péloponnèse. Et pour les gens qui habitaient ces espaces, on emploie le terme de Minoens et de Crétois pour ceux qui sont strictement en Crète. Et pour ceux qui étaient en Grèce continentale, on parle des Mycéniens, ce sont en fait les Achéens d'Homère. Concernant la périodisation historique, on parlera pour des éléments, des données qui se passent en Crète et éventuellement dans les îles de la mer Égée, on parle de Minoens, anciens, moyens, récents, et vous vous doutez bien que ces trois périodes sont-elles aussi divisées en trois sous-périodes. En gros, c'est la première moitié du deuxième millénaire avant notre ère. Quant à l'Elladique, ancien, moyen, récent, j'ai commis une petite erreur, il faudrait peut-être dire 1700 pour l'Elladique ancien. Bon, en gros, ça correspond de toute façon à l'âge de bronze. Mais ce que j'ai fait, en fait, je m'aperçois que je vous ai donné en gros la période concernant à l'époque mycénienne. Maintenant, terminologie linguistique. Avant l'arrivée des Grecs, il y avait des gens qui parlaient des langues qu'on ne connaît pas et dont on a quelques témoignages écrits, mais qu'on ne pourra vraisemblablement jamais déchiffrer. Et ces langues-là, par commodité, on les appelle en bloc des langues pré-héléniques. Ça veut juste dire qu'elles étaient là avant qu'il n'y ait des Grecs et du grec. Le grec qui m'intéresse, moi, c'est le grec mycénien, parlé et écrit au deuxième millénaire. Il est écrit en linéaire B dans un système syllabique. Je vous en montrerai des exemples très bientôt. Et en fait, pourquoi dit-on mycénien ? Mais parce que le site principal, le premier site vraiment qui a fourni des données archéologiques, c'était Mycène. Et enfin, quand je parle du grec alphabétique, c'est le grec ancien, à partir du premier millénaire avant notre ère. Il est écrit en alphabet, donc ça va plus vite de dire grec alphabétique. Grec mycénien, deuxième millénaire, grec alphabétique, premier millénaire avant et jusqu'à aujourd'hui. Vous avez en fait les principaux sites du continent, Thèbes, Tirynthe, Mycène et Pylos. On a trouvé en fait des tablettes à Lacanée ou Chania en grec et Knossos. On a trouvé aussi des vases inscrits qui n'entrent pas dans mon propos et qui ne fournissent aucun vocabulaire. Et bien voilà une première tablette. Voilà les documents auxquels nous sommes confrontés. C'est de l'argile. Dans le cas présent, elle n'est pas cuite. D'autres tablettes sont cuites, mais ça n'est pas intentionnel. Elles ont cuit dans l'incendie des palais. Donc, ici, vous avez un exemple qui vient de Knossos, K-N, hein, c'est la manière de nommer. F nous indique qu'il y a de l'huile. Et donc, vous voyez que les scribes, avec un stylet, ont gravé dans l'argile molle un certain nombre de signes. Il y a en fait un texte qui dit, le premier mot à gauche, la première série de trois signes, c'est en fait un nom de moi. Au-dessus, un petit peu au-dessus de la ligne, c'est le nom c'est le mot moi. Et ensuite, vous avez vous avez des mots, des séries de signes, et ici, vous avez des idéogrammes. Il y a cet idéogramme plusieurs fois dans le texte. Cet idéogramme est celui de l'huile. Alors, ça vous donne une indication de ce que sont ces textes. Ce sont en fait des brouillons de comptabilité palatiale. Ce sont des documents économiques. Les scribes font des enregistrements de tout ce qui entre et de tout ce qui sort du palais. Ici, de l'huile, ailleurs, des gens, plus loin, des chars. Les produits sont extrêmement variés. Ce sont, comme vous le voyez, des espèces de petites fiches sur des sujets donnés. On sait qu'il y avait des documents des documents qui étaient archivés, parce que dans ces tablettes-là, on a des mentions du genre « l'année dernière, un tel n'avait pas versé, un tel, il manquait sur le compte d'un tel tant de choses ». Et puis, il y a aussi « pour l'année prochaine, un tel donnera tant ». Donc, on sait qu'il y avait une autre comptabilité que celle-là, certainement archivée sur des matériaux beaucoup plus nobles, parce que les tablettes non cuites, elles ont un avantage, c'est qu'on les trempe dans un seau, où on les, avec la face plate du stylet, on les arase et on peut recommencer. Donc, ces tablettes-là, elles étaient destinées à être détruites. Ce qui m'amène à vous dire que nous avons une documentation qui n'excède pas les 3 derniers mois de vie des palais, à des époques différentes suivant les sites. Donc, on a quelque chose, une vision extrêmement partielle de la situation. Je passe à la diapo suivante pour vous montrer les difficultés de type paléographique que nous avons. Alors, je m'excuse, la photo n'est pas très grande, mais vous voyez déjà que la tablette est constituée de pièces et de morceaux. Heureusement qu'on a retrouvé, mais il y a une occupation favorite de mes collègues belges et grecs qui est d'aller dans les tiroirs du musée d'Héraclion, ouvrir les tiroirs, parce qu'on ne manipule pas ce genre d'objet, d'ouvrir les tiroirs et de chercher à faire des raccords mentalement. Et alors, quand ils pensent avoir trouvé le raccord, ils ont le droit de prendre les pièces et de les mettre les unes à côté des autres. Donc, c'est un travail. Si vous voulez accéder déjà aux documents, c'est un travail long et difficile. Vous voyez aussi qu'il y a... Bon, on arrive à lire, hein, quand on voit les photos un peu mieux. Là, la projection abîme un petit peu la qualité de l'image. Mais bon, vous voyez déjà que les documents ne sont pas donnés. Le contenu des textes n'est pas donné. Et puis, je vous ai donné ce dernier exemple, on a des documents qui sont des documents extrêmement schématiques. On a en tout 5 phrases complexes, c'est-à-dire avec une principale et une subordonnée, dans 6 à 7 000 documents. Donc, pour la syntaxe, c'est quand même assez rudimentaire, assez élémentaire. Alors, cette tablette qui vient de Knossos et qui enregistre du bétail, il y a deux mots. Il y a simplement 2 mots écrits. Ici, vous avez le nom du lieu et ici le mot akoraya qui veut dire réunion, rassemblement, donc rassemblement de bétail. Et vous voyez, en fait, les idéogrammes. Là, c'est le mouton. On reconnaît vaguement la tête. Mouton mâle, mouton femelle. Donc, et puis, donc là, on a 60 béliers et on a 270 femelles, ce qui est normal dans un troupeau. Ensuite, vous voyez, on a un idéogramme semblable ici et ici. Ça évoque des cornes, ça ce sont les caprins. Ici, on reconnaît bien la petite oreille et le museau, le groin droit du cochon. Et enfin, vous avez ici les cornes des bovins. Donc, on a un rassemblement de bétail à des fins administratives, bien entendu, de contrôle et de récupération des bêtes pour le palais. Ça ne laisse pas la place à beaucoup de choses. La mer, vous pensez bien que la mer, ça n'est pas un sujet très porteur dans l'économie palatiale. Ici, je vous ai montré un type particulier de document, c'était les états préparatoires aux états préparatoires que vous avez vus. C'est-à-dire qu'on arrivait... on enregistrait dans les bureaux, en face des objets, on enregistrait un bon d'entrée. Et c'était ça les bons d'entrée. Il y avait en général une ficelle qui passait à l'intérieur. Et ça permettait de les prendre en poignée. Et après ça, on allait dans un bureau et on faisait les enregistrements multiples que vous avez vus. Alors, malgré toutes ces difficultés, on peut quand même dire que c'est du grec. Ça a surpris plus d'un. Et d'ailleurs, le déchiffreur... du Mycénien, Michael Ventris, qui est un Britannique, eh bien, ne pensait pas, jusqu'à le mois qui a précédé véritablement le déchiffrement, il ne pensait pas que c'était du grec, personne ne pensait que c'était du grec. Et quand on lit les mots, eh bien, on trouve, alors évidemment, je vous ai pris un exemple dans notre domaine d'aujourd'hui, il y a un nom de personne, on a donc de longs catalogues avec des gens, et on a une forme Eunawo, qui se lit Eunawos. Eh bien, chez Homère, on a Eunéos, au bon navire, qui a un bon navire. Et là, on retrouve, en fait, le radical naou du nom du bateau. Je vous en ai donné quelques formes. Et vous notez que, en fait, dans le grec mycénien, vous avez naouos, comme en latin, on a naouis. Alors que dans le grec ultérieur, on a néos sans le ou. Le ou a disparu du grec, donc évidemment, le mycénien intéresse beaucoup les linguistes parce qu'il présente un état plus ancien phonétiquement, essentiellement phonétiquement, de la langue. Mais vous vous en doutez, le système n'est pas très très facile à lire. Non seulement les textes, il faut les recoller en petits morceaux, mais en plus, quand on a réussi à avoir le texte, on a des mots et on a une orthographe qui n'est pas tellement commode. Parce que quand vous faites votre liste de courses, vous mettez des abréviations. Et bien là aussi, ils ont choisi le mode bref, le mode abréviatif, la sténo. Donc quand on prend une séquence, et là j'ai évidemment fait exprès de prendre un mot court, pas plus T, ça peut, suivant le contexte, désigner le nom du père. Quand on a paté, matédé, pater, materdé. Et quand on a tosso, paté, à la fin d'une énumération, avec un nombre qui fait la somme de toutes les entrées précédentes, tosoi pantes, tant de personnes en tout. Alors, je ne vous étonnerai pas en vous disant que les tablettes disent peu de choses, en fait, de la mère, mais, la mère était là. Alors, là, je suis obligée de prendre en compte, évidemment, la mère avant les Grecs. Je vous ai donné ici une première image de la fresque dite de Terra, fresque de la procession des bateaux. Il faudrait un grand panoramique qui n'entre dans aucun écran. Donc, vous voyez en dessous d'une ville qui est baignée par un fleuve et la mer, vous avez un bateau avec des rameurs qui sont sous un dais de protection et vous avez le pilote à gauche. Alors, regardez bien la forme du bateau. Vous le verrez. Elle a une proue qui va très haut, qui est très fine et qui va très haut. Autre exemple, là ce sont des bateaux d'apparat, toujours la même fresque, avec des dauphins, à la fois, enfin des animaux sur la coque du bateau, ce sont donc des bateaux d'apparat véritablement, et on ne voit pas les rameurs. On voit des personnages et les rameurs sont dans les soutes. Bien, deux détails, un gaillard d'arrière pour l'image de gauche, et puis à droite un navire marchand qui est un petit peu plus pensu et qui a une voile intéressante, et il y a une collègue grecque qui a examiné ça de près. Donc alors elle a utilisé dans la partie haute de la diapo, c'est ce qu'il y a d'authentique dans la fresque, les morceaux anciens, et à partir de ces morceaux anciens Ara Georgiou a reconstitué, en fonction de tous les éléments que l'on voit, à quoi devait ressembler la voilure avec le mât. Donc c'est intéressant de voir que c'est quelque chose de fort élaboré. Autre témoignage qui date en gros de la première moitié du deuxième millénaire avant. Vous avez des empreintes de sceau pour les trois de gauche. Donc vous reconnaissez la caractéristique, quel que soit le type de mât, quelle que soit l'organisation de ce qu'on met sur la coque, toujours la même coque avec une proue recourbée et éventuellement pourvue d'un motif. En bas, c'est ce qu'on appelle une rondelle, c'est-à-dire que là où vous avez les petites flèches, tout autour, c'est en fait une vraie rondelle de terre qui fait à peu près 1 cm d'épaisseur, et les empreintes de sceau, elles tournent sur la tranche. Et un bateau dessiné dans l'autre sens que sur les sceaux, il a sa proue à gauche, un bateau incomplet, mais qui est tout de même intéressant à voir. Donc, mettez-vous ces images dans la tête, on va voir la suite. Alors, que se passe-t-il dans le millénaire suivant? Eh bien, on a donc des scribes qui sont censés écrire. Et puis, vous voyez bien, là, ce qu'il y a, eh bien, ils dessinent. Parce qu'ils s'ennuient, parce qu'il y a une pause. Alors, en fait, c'est un enregistrement de chèvres. Je suis désolée, l'image est mauvaise, j'ai pas pu faire mieux avec ça. Et, en fait, alors, je prends mon téléphone portable pour que vous voyez, il écrivait comme ça, et ensuite, pendant la pause, il a tourné sa main et il a dessiné le labyrinthe, dont l'entrée est face à lui, ce qui est logique. Quand on dessine un labyrinthe, c'est toujours l'entrée face à celui qui dessine. J'en arrive à mes bateaux. Donc, on a aussi dans une tablette qui parle de rameurs, dont je parlerai peut-être tout à l'heure, mais je pense pas, j'aurais peut-être pas le temps. Dans une tablette qui parle de rameurs, nous avons donc le recto avec toutes ces lignes d'écriture. Alors bon, le texte est épouvantable, non seulement parce qu'il est ruiné, mais en même temps parce qu'il y a des erreurs, ce qui n'est pas certainement, qui est sans doute lié aussi au fait que notre scribe a dessiné quelque chose. Alors, si on le met dans le bon sens, c'est-à-dire, hein, vous voyez le texte comme ça, et on tourne pendant la pause sans modifier la prise, on a ceci, qui est un bateau. C'est normal, on parlait de rameurs, il enregistre des rameurs qui ne sont pas là. Eh bien, il fait une pause et il dessine un bateau, qui a évidemment beaucoup à voir avec les bateaux minoens. Alors, ça, ce sont des exemples de bateaux typiquement mycéniens. Alors, donc, la bague en or est en fait d'origine minoenne, où on a un bateau qui a exactement la même allure que les bateaux de la fresque, avec un mât ici, un dais pour des personnages, et puis une proue extrêmement élevée, recourbée vers le haut. Alors, un bateau en haut à gauche. Vous avez en fait sur un vase de la fin de l'époque mycénienne avec une technique qui est terriblement maladroite, hein, et ça c'est une caractéristique constante de la fin de l'époque mycénienne. On a dû perdre les savoir-faire. Donc vous avez à l'évidence un bateau avec des rameurs et puis une superstructure, un souvenir de la proue très élevée. Et sur l'image de droite, vous avez en fait un coffre qui sert, qu'on appelle un larnax, qui sert de sarcophage, et vous avez un bateau, probablement un bateau pour aller dans l'au-delà, j'imagine. Mais c'est, il y a quelque chose encore du bateau minoen, hein, même si on le voit mal. On a peut-être même un idéogramme du navire, très simple, mais vous le voyez, il dit en peu de traits les éléments typiques des bateaux que nous avons vus. Alors, le lexique, on a en fait deux mots que sur als, d'un côté, mais pas le nom de la mer lui-même, hein, le sel, et on a aussi quelques noms sur pontos. Alors, als, on a le nom de l'aigle marine, halos ou d'or, dans une description de table pour un festin, et vous voyez la traduction, table en pierre, en cristal de roche, incrustée d'aigle marine. Alors, soit de lapis lazuli, soit de pâte de verre, excusez-moi, il aurait fallu un accent, et d'électrons, mélange d'or et d'argent. Vous avez aussi, dans la fameuse tablette que je vous ai montrée tout à l'heure, où il y a le bateau, le nom du pêcheur, Halios, l'homme de mer. Il a envoyé des gens de mer qui ont, alors, operante ere, qui ont pourtant obligation de ramer, hein, donc 5 hommes. C'est un état, en fait, d'absence de rameur. Donc là, il y a quelqu'un qui a fait une fausse manœuvre. Il a renvoyé à terre des gens dont on aurait eu besoin sur la mer. Donc, vous avez aussi des tas de noms de lieux qui comportent le nom de la mer. Alors, Api Adoro, qu'on trouve plusieurs fois à Pylos, c'est le nom d'un homme qui signifie monsieur bord de mer ou quelque chose comme ça. Et c'est un mot qui existe comme nom et comme adjectif chez Homère, et ça signifie soit entouré par la mer, soit baigné des deux côtés dans le cas d'un détroit. Un autre mot qu'on ne trouve qu'à Pylos, Aigialos, qui est un nom d'homme, qui désigne, ou le premier élément désigne les vagues, vagues de la mer. Le mot suivant désigne la région du bord de mer. Vous avez aussi Opi Adera, Opi Hala, les régions côtières, que vous avez comme en tête de toute une série de textes qui recensent les bataillons qui doivent être rassemblés en différents points de la côte et qui sont sous l'autorité de commandants. On a trouvé d'autres mots qui n'ont pas de rapport direct, évidemment, avec le nom de la mer proprement dit, mais qui désigne des réalités maritimes, avec Opiskerion, qui désigne les sèches du bord, donc la partie vraiment du rivage où on peut mettre le bateau au sec, et puis Tinos, qui signifie les sables, comme nom de lieu. Quant à Pontos, c'est intéressant, parce que il fournit d'abord des noms propres. Un certain Pontos, probablement, dont Homère nous donne un exemple dans la liste des jeunes Phéaciens que rencontre Ulysse chez Alcinoos, et c'est certainement un nom de métier. Navigateur plus que homme de mer, pêcheur sur le bord. Et en fait, pourquoi ce mot court peut-il être analysé comme celui-ci, ainsi que Pontios? Eh bien, parce qu'on a un certain nombre de noms du même type qui mettent en cause les réalités maritimes. On a aussi Cléwes, célèbre par ses vaisseaux, Ortinaos, qui fait partir ses vaisseaux, et Ounaos, que je vous ai cité tout à l'heure, qui a de bons navires, Okunaos, qui a des navires rapides, et Euhomo, qui a un bon port, un bon havre pour ses bateaux, et Euporoio, qui fait une bonne navigation. Alors, ce qui est amusant de voir, il est amusant de voir que ces gens-là ne sont absolument pas des marins. Ce sont des gens du commun, avec des métiers variés, un forgeron, des bergers, etc. Je pense qu'il s'agit de ce qu'on appelle quelquefois les noms de châteaux, phénomène qui fait que si on a bien aimé l'héroïne ou le héros d'un roman, on l'appelle sous Hélène, on l'appelle pas J.R. évidemment parce que c'est pas très porteur, mais on appellera un enfant Fabrice parce qu'on a lu la Chartreuse de Parme, hein, avant la naissance. Donc voilà, c'est quelque chose d'intéressant à noter. Et ce qu'il y a à dire aussi, c'est que chez Homère, on trouve un passage qui est une espèce de jeu, hein, qui repose sur un jeu. Chez les Phéaciens, qui sont un peuple de marins, eh bien, vous avez l'arrivée des jeunes gens qui viennent pour le concours qui est organisé en l'honneur d'Ulysse. Eh bien, ils ont tous des noms de marins. Le premier s'appelle du Gaillard, le second prompt à l'eau, prompt à la mer, le troisième rameur, ensuite marin, homme de poupe, du rivage, encore un autre rameur avec un autre nom de la rame, navigateur, homme de proue, rapide, qui embarque, du détroit, qui a beaucoup de navires, et charpentier, de marine naturellement, etc. Donc vous voyez que dans ce texte qui se trouve au champ 8 de l'Odyssée, eh bien vous avez des noms de la mer qui ont leur écho déjà, enfin, ou qui sont préfigurés par déjà des formes fréquentes, bien attestées au deuxième millénaire. Je terminerai par le nom de métier qui a la forme potiro, qu'on lit pontilos, alors peut-être aussi fortilos, pourquoi pas, qui pourrait vouloir dire armateur. Il apparaît 9 fois dans la même série de la main du même scribe, donc l'individu, enfin le scribe 125, il était en train de faire, il était sur un petit dossier, le dossier des pontiloi. On a toujours la même formule dans la tablette, et en fait le mot, moi je pense que c'est plutôt pontilos que fortilos, même si le contexte n'éclaire pas trop, parce qu'en fait on a d'abord une formation qui est bien attestée déjà en mycénien, même si elle tend à disparaître ensuite, et puis qu'on a un zoonyme, un nom de polype, dit Aristote, pontilos, qui est l'équivalent du nautile. Alors, je vais simplement vous lire très rapidement la définition qu'en donne, enfin pas la définition, mais la manière dont Aristote le décrit dans l'histoire des animaux. Le polype nautile est à la fois, par sa nature et aussi par tout ce qu'il fait, remarquable. Ainsi, il vogue à la surface de la mer afin de remonter plus aisément. Il s'élève d'abord en retournant sa coquille afin de remonter plus aisément et de l'avoir vide en naviguant. Puis, arrivé à la surface, il la redresse. Entre ses tentacules, il a une sorte de tissu qui ressemble à celui que les palmipèdes ont entre leurs doigts. Seulement chez les palmipèdes, cette membrane est épaisse, tandis que dans le nautile, elle est aussi mince qu'une toile d'araignée. Dès qu'il fait un peu de vent, elle lui sert de voix. Et ses tentacules rapprochés et descendus lui font un gouvernail. Donc vous voyez que le nautile a été nommé nautilos comme pour dire que c'était un navigateur. Et une fois Aristote emploie, dit que nautilos et pontilos, c'est le même animal. Or, il y a toutes les chances que notre pontilos, celui qui sait y faire sur Pontos, la mer difficile à naviguer, soit ici représenté. Et pour vous dire que je n'invente pas pour les nautiles, je vous ai donné à gauche un vase minoen avec des nautiles et pour l'époque héladique, hein, une épée qui est ornée d'incrustations en or et en argent avec des nautiles. Donc.